RFI.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la place de l'Union européenne dans les nouveaux jeux de puissance. La rencontre cette semaine entre le président américain et le chef de l'exécutif européen, Jean-Claude Juncker, contribuera-t-elle à désamorcer la crise entre les États-Unis et l'Europe sur fond de tarifs douaniers? La question reste posée alors que l'Europe est soumise à rude épreuve dans sa relation avec Washington. Accord sur le climat affaibli par le retrait américain, consensus sur le nucléaire iranien brisé, le sommet du G7 torpillé par un tweet de Donald Trump, Theresa May humiliée pendant la visite du président américain, les alliés de l'OTAN offensés pendant le sommet de Bruxelles, de plus en plus de dossiers opposent américains et européens et la rencontre bilatérale d'Helsinki avec Poutine conduit au constat que visiblement le président américain est plus à l'aise avec les autocrates qu'avec les démocrates. À l'évidence, les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis ne sont plus automatiquement les mêmes, d'où la nécessité, voire le besoin pour l'Union européenne de disposer d'une autonomie stratégique propre. De fait, ce qui est posé dans le monde aujourd'hui, c'est la question même de la viabilité d'alliances stables et pérennes. L'Union européenne est-elle pour autant menacée? Regard sur ces défis avec nos invités par téléphone. Nicole Niesoto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et co-auteur avec Pascal Lamy de Où va le monde aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Pierre Grosser, historien, spécialiste de l'histoire des relations internationales, professeur agrégé à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, paru également aux éditions Odile Jacob. Bonjour.
Bonjour.
Donald Trump et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker ont-ils désamorcé la crise née des tarifs douaniers imposés par les États-Unis en annonçant une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste cependant à confirmer. Nicole Niesoto, comment voyez-vous cette rencontre et les résultats de cette rencontre entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump à Washington?
Écoutez, moi je crois qu'il n'y a pas de bonne nouvelle venant des États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. Donc là, on a apparemment un accord, mais je crois qu'il est comme tout accord avec Trump, il est accidentel et réversible. Si on regarde le détail des choses, en particulier les Européens se sont engagés en échange de la levée de menaces de sanctions à acheter plus de soja et plus de gaz de schiste américain. Or, quand on sait l'opposition des opinions européennes et d'ailleurs de la Commission elle-même aux OGM et gaz de schiste, on peut vraiment se demander si cet accord va durer plus que le voyage de M. Juncker. Moi, je crois que les Européens doivent prendre conscience qu'ils ont en face d'eux, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un président américain qui sape les fondements de la puissance occidentale et donc de la puissance euro-américaine. Il sape premièrement le libéralisme économique, deuxièmement la notion même d'alliance permanente avec des démocraties. Et donc, qu'il s'agisse des relations commerciales ou des relations de sécurité au sein de l'OTAN, les Européens ont en face d'eux un allié qui est devenu un problème. Et ça, je crois que ça incite les Européens à énormément de prudence, y compris sur les deals ponctuels qu'ils peuvent obtenir de la part du président américain.
Pierre Grosser.
Oui, alors on reviendra sur l'image globale et les relations globales et notamment stratégiques entre l'Europe et les États-Unis sur cet accord. Effectivement, d'un côté, on achète du soja et on achète du gaz, ce qui est en fait lié très largement à des questions de politique intérieure américaine, c'est-à-dire que le système des sanctions, notamment à l'égard de la Chine, avait créé des surplus, notamment de soja. Traditionnellement, c'était le nord de la Chine, entre les deux guerres, qui exportait du soja. Maintenant, c'est essentiellement les Américains. Et donc, le problème pour Trump, en vue des élections qui approchent, des midterms qui approchent,
En novembre,
c'est d'éviter que un certain nombre de des candidats républicains aient des problèmes. D'ailleurs, pendant sa conférence de presse, il a bien vérifié que les candidats républicains ou les gouverneurs républicains étaient présents. Donc c'est quelque chose qui est important pour lui d'éviter des engorgements, comme il y en a par exemple en ce moment pour la viande, aux États-Unis. Donc là, c'est un peu à court terme. Et il y avait aussi quelque chose qui était à court terme, mais plutôt du côté allemand. qui était la menace d'avoir du protectionnisme sur les exportations automobiles. Mmh. Et là, finalement, l'automobile est restée en dehors du champ. Donc, on ne touche pas à la question des automobiles, qui a l'air d'être totalement fasciné Monsieur Trump, qui n'arrête pas de dire qu'il y a trop de voitures allemandes quand il se promène à New York ou à Washington, enfin, qu'il se promène maintenant bien protégé. Mais voilà, c'est vraiment à court terme un élément qui est effectivement mis de côté et qui permet de ne pas avoir l'impression d'être dans une guerre économique que, en fait, ne veulent pas la plupart des entreprises américaines. Donc, encore une fois, dans la perspective des élections, je pense que c'était très important pour Trump de calmer le jeu. Mais, comme l'a dit Nicole Nézotto il y a l'instant, ça ne dit rien de ce qui va se passer dans les années à venir.
Alors, Européens et Américains ne sont plus des alliés. Nicole Nézotto, vous l'évoquiez à l'instant, et la relation est plus une relation problématique. Ce qu'il est important peut-être de souligner, c'est que de moins en moins, les présidents américains n'ont de liens sentimentaux avec l'Europe. Tout cela est venu de façon progressive, et ça se confirme depuis quelque temps. J'ai presque envie de dire que le dernier, c'était Monsieur Bush, père, au début des années 90, Nicole Nézotto.
Oui, alors, je n'ai pas dit que les Européens et les Américains ne sont plus des alliés. Ils le sont par la force des choses, c'est-à-dire la force des menaces extérieures. Mais ce ne sont plus des alliés, entre guillemets, naturels. Mmh. Ce ne sont plus des alliés confiants l'un dans l'autre. Les Américains se méfient, enfin, Donald Trump se méfie des Européens qu'il accuse d'être tout simplement des parasites, c'est-à-dire de profiter de la générosité militaire des Américains sans dépenser un sou pour leur propre défense. Et les Européens se méfient d'un président américain parfaitement incontrôlable, inquiétant et irrationnel. Donc, c'est une alliance, je dirais, des deux côtés, à la fois forcée, mais à contre-cœur. Maintenant, c'est vrai, vous avez raison, Donald Trump n'est pas le premier à inaugurer une relation, je dirais, pragmatique avec les Européens, et même sans aller jusqu'à George Bush, le président Obama lui-même, qui était pourtant le plus adoré par les Européens, le président élu par le cœur de tous les Européens, Obama avait, dès le début de son deuxième mandat, affiché très clair que désormais la priorité des États-Unis, ça n'était plus la sécurité de l'Europe, c'était l'Asie, parce que l'avenir du monde se jouait en Asie, et il avait annoncé, de la façon la plus claire, mais également justement la plus objective possible, le déplacement de la stratégie américaine vers l'Asie. Les Européens avaient été un peu inquiets de voir qu'ils n'étaient plus au cœur de la pensée stratégique américaine, mais c'était absolument dénué de tout conflit. Même les Européens les plus attentifs comprenaient très bien que le XXe siècle était mort et que peut-être, c'est vrai, l'Europe n'était plus le centre du monde. Ce qu'il y a de très différent avec Donald Trump, c'est à la fois ce mélange donc, d'agressivité vis-à-vis notamment de l'Allemagne. C'est un président anti-allemand. Ça, je crois que Mme Merkel ne se fait pas d'illusions. La question des automobiles reviendra sur le tapis. Donc c'est un président anti-allemand, c'est un président très mal élevé, c'est-à-dire qui ne tient pas compte absolument des usages diplomatiques. Et c'est un président qui peut parfaitement, demain, décider qu'une alliance avec la Russie est dans l'intérêt, bien compris, des États-Unis au détriment des Européens. Et ça, je crois que c'est totalement nouveau. Même Bush 2, Bush Junior, qui avait quand même été très anti-européen comme président avec cette phrase « We want to disintegrate Europe », il voulait désintégrer l'Europe, même le mandat de Bush Junior ne passait pas par une aile anti-allemande aussi marquée que là le président Trump.
Alors cette volonté de désintégrer l'Europe, elle se confirme, Pierre Grosser, avec Donald Trump qui a parlé d'ennemis, même si après sa rencontre mercredi avec Jean-Claude Juncker, il a parlé de nouvelles phases dans les relations entre Washington et Bruxelles. Enfin, tout ça était terriblement changeant, mouvant et...
Oui, alors cette question d'ennemis, c'est vraiment sa vision du monde, hein, qui est finalement avec un certain nombre de gladiateurs qui sont en train de se faire des bras de fer sur différents sujets, en gros des bras de fer deux à deux, hein, quand c'est quand même plus facile pour faire des bras de fer. Donc c'est une vision qui est quand même assez nouvelle, qu'on retrouvait plutôt aux marges de la réflexion stratégique américaine. Il y a effectivement des changements assez importants qui sont certains liés, parce qu'on le retrouve dans l'opinion publique américaine aussi, hein, qui sont liés à des changements de génération. Mmh. Hein, on avait quand même dans les années 40, 50, 60 des dirigeants américains qui avaient fait le tour d'Europe, qui connaissaient les Européens, qui avaient vraiment des liens, des amitiés très profondes avec les Européens. Enfin, je veux dire, toute la construction européenne, Jean Monnet avait un réseau américain que tout le monde connaît. Enfin voilà, c'était, il y avait des liens qui étaient très forts à cette époque-là. Aujourd'hui, dans la formation d'ailleurs aussi des élites américaines, on parle de plus en plus du reste du monde et de moins en moins d'Europe. Et puis, il y a aussi une différence, je crois, majeure, c'est qu'il n'est même, fait même pas partie de cet establishment. Donc, non seulement une partie de l'establishment est moins liée à l'Europe, mais lui-même est extérieur à cet establishment et même est en guerre en grande partie avec cet establishment. Donc, tout ce que finalement est l'héritage de la politique extérieure américaine lui pose un certain nombre de problèmes. Alors, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels on reviendra peut-être, qui sont assez anciens, récurrents, comme la question effectivement du partage du fardeau. Mais lui, avec son style et à mon avis avec effectivement un certain nombre de positions, le voit différemment. Alors, est-ce qu'il veut désintégrer l'Union européenne? On peut effectivement avoir cette image-là d'une Union européenne qui est maintenant, j'allais dire, l'équivalent de l'Allemagne, la guerre de 30 ans, c'est-à-dire avec les puissances extérieures qui essayent d'avoir des alliés sur place et surtout d'empêcher la création d'un ensemble plus vaste. On a effectivement la Russie, on a la Chine d'une certaine façon qui joue sur les différences entre les pays, on a les États-Unis et notamment un certain nombre de gens qui sont proches du président. Alors, maintenant, certains sont partis, comme M. Bannon, etc., qui ostensiblement disent qu'ils veulent désingler l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ça soit une grande stratégie organisée avec un consensus autour de Trump pour faire ça. Donc, pour le moment, si vous voulez, on a l'impression plutôt d'action impulsive, d'une philosophie d'ensemble du président lui-même et de quelques-uns de ses conseillers ou de ses proches qui vont poser des problèmes à l'Union européenne. Mais on n'a pas encore, me semble-t-il, une vision d'ensemble pour mettre en l'air l'Union européenne.
Géopolitique.
Alors, pas de stratégie, mais des actions impulsives. Nicole Liesotto, comment Trump voit-il l'Europe? Est-ce qu'il y a finalement des points d'accord entre les États-Unis et l'Union européenne?
Alors, je suis d'accord avec Pierre Grosser pour dire que Trump n'a absolument aucune vision stratégique, et d'ailleurs, il n'a aucune vision du tout. Il a un comportement par réflexe, faire des deals, des bons deals, des mauvais deals, etc. Et donc, non, il n'y aura pas de grande stratégie, comme le général de Gaulle parlait de grands desseins en politique étrangère. Si on va encore un tout petit peu plus loin, je crois que pour les Européens, la période est quand même totalement atypique et inouïe. C'est-à-dire que les Européens n'ont pas le recours possible à l'histoire des relations transatlantiques pour trouver des parades. Alors évidemment, on a toujours des points d'accord, encore que faudrait s'interroger, parce que ni sur le climat, ni sur l'Iran, ni sur la Russie, je crois, ni sur l'Afrique, puisque Trump n'a pas de politique africaine, et ni sur la Chine, qui est devenue notre meilleur allié contre le protectionnisme américain, je crois qu'on a vraiment de plus en plus de mal à trouver quels sont les intérêts communs euro-américains. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les Européens, ce qui est difficile, c'est de s'apercevoir que l'Europe est au carrefour de trois évolutions menaçantes pour l'Europe. Il y a premièrement, évidemment, la menace américaine, parce que moi j'emploie à dessein le mot de menace américaine. Il y a deuxièmement la métamorphose de la menace russe. Il y a quand même un comportement malveillant de la part de la Russie, très clandestin mais très malveillant. Et il y a troisièmement le retour des mouvements et des idées d'extrême droite en Europe. Il ne faut quand même pas oublier ça, c'est le danger le plus important, je crois, aujourd'hui pour l'Union européenne. Et donc l'Europe se retrouve au carrefour de ces trois mouvements et elle est à la fois, je crois, abasourdie et inquiète. Et alors, le problème des Européens, c'est qu'ils sont tiraillés entre deux attitudes, soit le sursaut, comme la France d'Emmanuel Macron essaye de le promouvoir, c'est-à-dire face à ces trois dangers russes, américains et intérieurs, il faut vraiment relancer l'Europe, une Europe souveraine, puissante, etc. Et puis il y a l'autre attitude qui, à mon avis, est majoritaire en ce moment, dont M. Juncker est l'incarnation en allant à Washington, qui est le déni, l'accommodement, tout plutôt qu'une crise avec les États-Unis, et à n'importe quel prix, ce que je trouve quand même, sur l'affaire du soja et du gaz de schiste, tout à fait incroyable.
Alors, Pierre Grosser, pour aller plus loin, quelle question l'Europe doit-elle aujourd'hui se poser, ne serait-ce que face aux trois menaces qu'évoquait à l'instant Nicole Liesotto?
Dans les trois menaces, le problème, c'est que la question de l'extrême droite est en partie liée à à ce qui se passe en Russie et ce qui se passe aux États-Unis. Donc, elles sont pas complètement juxtaposées, les trois. Plus, on a quand même d'autres problèmes au sud de la Méditerranée, le Moyen-Orient qui pose des problèmes, etc., etc. Enfin, c'est vrai qu'on peut décrire une situation stratégique relativement inquiétante. Je crois que surtout que le gros problème, c'est de parler des Européens. Parce que, effectivement, depuis un certain nombre d'années, et en tout cas le Royaume-Uni a eu un rôle important là-dedans, finalement l'Europe c'était un espace, une espèce de grand marché, et l'échelle européenne n'était même pas suffisante. Un certain nombre de grands groupes savaient qu'il fallait être à l'échelle mondiale, et un certain nombre de grands groupes étrangers venaient faire leur stratégie en Europe. Donc on a une espèce de dilution de l'Europe par l'économie, et puis aussi c'est un grand marché, pas seulement économique, mais un grand marché des idées. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont des positions, que ce soit des groupes politiques, des individus, des intellectuels qui ont des positions souvent très divergentes, qui peuvent être tentés aussi, avec d'ailleurs un certain nombre de dirigeants qui deviennent lobbyistes pour telle ou telle puissance étrangère, semble-t-il avec quand même assez de facilité, eh bien tous ces éléments-là font que créer une stratégie européenne et d'avoir un consensus encore plus européen, parce que déjà avant, quand le monde semblait plus simple, je suis pas sûr qu'il était plus simple, mais semblait plus simple, on avait du mal à avoir un consensus. Aujourd'hui, on a l'impression d'être ballotté justement dans le marché international avec aussi les Chinois qui viennent faire leur marché, etc., etc., et ballotté dans un monde d'idées où qui va aller en Russie pour avoir quelques ressources, à la fois intellectuelles et financières, s'appuyer aux États-Unis sur tel ou tel groupe, et puis évidemment aussi dans le Golfe ou ailleurs. Et tout ça pose évidemment un grand problème pour avoir une ligne claire.
Alors, pour en revenir et poursuivre ce que vous disiez, Nicole Niesoto, dans la relation entre l'Union européenne et les États-Unis, est-ce que l'Europe a une capacité à réagir? Vous parliez de Jean-Claude Juncker qui est dans un certain déni. Est-ce qu'il faut penser par là que l'Europe n'est pas en mesure d'assumer la crise avec les États-Unis? Et au-delà du fait d'assumer, est-ce qu'elle est en capacité de le faire?
Alors, c'est toute la question de la volonté de puissance en Europe, ou de la volonté tout simplement d'existence politique de l'Europe. Je crois que Pierre Grosseur, là aussi, a raison. Quand il parle d'une Europe grand marché, mais ça remonte bien avant l'arrivée des Anglais en 72 dans la construction européenne, la volonté de puissance en Europe, elle a été bannie par la construction européenne elle-même. Toute l'idée, toute l'Union européenne, toute la construction européenne a été pensée et construite pour brimer toute volonté de puissance de la part des États, par l'intégration politique dans l'Union européenne d'une part, et par l'intégration militaire dans le cadre de l'OTAN sous leadership américain d'autre part. Et donc, de facto, aujourd'hui, pour l'Europe, c'est très difficile, parce que c'est contraire à 60 ans d'histoire, de se sortir de cette idéologie de l'impuissance et de trouver l'envie d'exister et de défendre ses intérêts sur la scène internationale. Mais moi, je crois qu'il faut vraiment casser cette idéologie suicidaire de l'impuissance de l'Union européenne, parce que c'est simplement de la survie des États-nations et du modèle européen dont il s'agit. Je crois qu'on est à un moment très important, et il me semble qu'il y a au moins trois raisons pour lesquelles il faut rééduquer l'Europe à la puissance. C'est que, premièrement, notre abstentionnisme dans les affaires du monde nous fragilise. Aujourd'hui, nous sommes en première ligne du terrorisme et des réfugiés, qui sont simplement la manifestation à l'intérieur de l'Europe de conflits non résolus à l'extérieur de l'Europe et sur lesquels l'Europe n'a jamais voulu intervenir. Donc notre abstentionnisme, premièrement, nous dessert. Deuxièmement, nous avons cru par le commerce et l'élargissement que nous allions pacifier notre entourage immédiat, et c'est l'inverse qui s'est produit, c'est notre entourage immédiat qui nous déstabilise, qu'il s'agisse de Poutine, de la Turquie, etc. Et troisièmement, dans la mondialisation d'aujourd'hui, seules les grandes puissances comptent. Moi, je dis toujours, la France, qui est une très grande puissance, ça n'est jamais que 1% de la démographie mondiale et 4% du PIB mondial. Dans la mondialisation, la Chine, c'est 20% de l'économie mondiale, 20% de la démographie mondiale. Et donc, si les Européens ne s'unissent pas, ils n'arriveront plus à exister dans le concert des nations de la mondialisation. Et Michel Barnier, quand il était commissaire aux affaires financières, avait un tableau qu'il montrait, qui est, je crois, très juste. En 2050, dans les 10 premières puissances du monde, il n'y aura plus une seule puissance européenne. Et donc, je crois que ça fait trois raisons pour lesquelles les Européens devraient, logiquement, retrouver l'envie d'exister, de s'affirmer comme une puissance sur la scène internationale, mais malheureusement, parce que 60 ans d'histoire les ont imprégnés du discrédit de la volonté de puissance, les Européens ont beaucoup, beaucoup de mal à émerger aujourd'hui.
Alors, nécessité que l'Europe s'unisse, nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Nous retrouverons donc nos invités, Nicole Niesoto et Pierre Grosser.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la place de l'Union européenne dans les nouveaux jeux de puissance. Nous retrouvons nos invités par téléphone. Nicole Niesoto, professeure titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et co-auteur avec Pascal Lamy de Où va le monde chez Odile Jacob. Et en studio, Pierre Grosser, historien, spécialiste de l'histoire des relations internationales, professeur agrégé à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, paru également aux éditions Odile Jacob. Pierre Grosser, Nicole Niesoto évoquait la nécessité que l'Europe s'unisse et retrouve l'envie d'exister. Un commentaire ?
Alors, c'est vrai que c'est des souhaits qui ont été émis à plusieurs reprises. On se souvient, par exemple, pendant les débuts des guerres en ex-Yougoslavie, que c'était l'opportunité pour l'Union européenne de montrer qu'elle a une puissance. C'est vrai que on a l'impression que c'est pas dans son ADN, alors que c'est dans l'ADN français, que la France projette effectivement un certain nombre de son identité de puissance sur l'Europe, c'est-à-dire à la fois donc un grand acteur international avec des capacités militaires. Et puis deuxième chose aussi, on a longtemps eu nous des champions nationaux sur la scène industrielle, et on a essayé d'avoir au début des années 90 tout un discours, même déjà avant, dans les années 80, des champions européens. Or, le problème, c'est que nos partenaires, et ils sont nombreux, et de plus en plus nombreux, ont rarement cette vision de l'Europe puissance. Alors, pendant un moment, on nous a dit, évidemment, c'est pas un problème, parce que, en gros, la puissance a changé, c'est toute l'idée de l'Europe puissance par les normes, de puissance soft, enfin, il y a tout un vocabulaire qui est allé avec ça, et qu'on allait, comme l'a dit Nicole Niesoto il y a un instant, on allait changer le monde, soit parce que les autres seraient conquis et voudraient nous ressembler, soit parce qu'on les intégrerait, et d'ailleurs, on continue à penser ça, puisqu'on voudrait élargir l'Europe en Europe du Sud-Est. Donc voilà, on allait civiliser le monde, civiliser nos bordures. Et d'ailleurs, quand on parlait d'intégrer la Turquie, ça aurait posé un certain problème, parce que si la Turquie était rentrée, la guerre en Syrie, ça aurait été complètement aux frontières de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression, encore une fois, c'est très difficile de faire la distinction entre nos représentations et la réalité, qu'on est revenu au temps des grandes puissances. Et donc, d'une certaine façon, c'est que la vision française l'emporte, que l'Allemagne doit être là aussi convertie. Il y a un certain nombre de gens qui disent aujourd'hui en Allemagne, on n'a pas assez pensé la stratégie, la puissance, il faudrait le dire de cette manière. Mais il y a beaucoup d'opposition à redevenir la puissance qu'on était avant. Et d'ailleurs, du côté français, il y a aussi quelques réticences à voir l'Allemagne redevenir ça. Et on a plutôt l'impression, si on veut être un peu caricatural, que en Europe, un des choix majeurs, c'est finalement d'être une espèce
d'un
ensemble vieillissant, en gros assuré par la sécurité et le parapluie nucléaire américain, qui serait concentré sur des enjeux totalement différents, qui sont des enjeux identitaires, sociaux, etc., etc., et qui a peur, évidemment, de toutes les transformations du monde. Et donc, un espèce de repli sur soi, alors que, effectivement, le monde frappe à notre porte. Donc, il y a un peu un problème, parce qu'on a rêvé de ça, je pense, dans les années 90 et 2000, et qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce n'est plus tenable, mais c'est encore une tendance très, très forte chez la plupart de nos concitoyens.
Alors, Nicole Niesoto, vous évoquez donc la nécessité que l'Europe s'unisse. Alors, on va parler du Brexit. Deux choses à propos de cela. On s'est d'abord beaucoup interrogé sur la quasi-concomitance entre la victoire du Brexit au référendum de 2016 et l'élection de Donald Trump. Je ne sais pas si vous-même, vous avez un avis sur la question. En ce qui concerne donc le Brexit, ce qu'on redoute aujourd'hui, c'est qu'il se fasse sans accord. Est-ce que ce serait une catastrophe et pourquoi ?
Alors, sur la crise chez les anglo-saxons, parce que vous avez raison, oui, les Américains et les Britanniques ont changé de bord au même moment, en juin pour les Anglais et en novembre pour les États-Unis. Et au même moment, donc, ces deux pays ont sombré en même temps dans une espèce d'idéologie à la fois nationaliste, souverainiste et populiste. Alors, est-ce que c'est l'avant-garde du monde? J'espère que non, mais c'est vrai que la coïncidence est frappante. Et ce qui est frappant en même temps, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'effets de contagion à l'intérieur de l'Europe. Je rappelle que le ministre des Affaires étrangères de Finlande est un quelqu'un d'extrême droite. Voilà, pour le premier point. Deuxièmement, est-ce qu'un non-accord serait une catastrophe? Je pense que la solution sera une catastrophe, c'est-à-dire pas d'accord, y compris avec des troubles civils possibles en Grande-Bretagne. Mais je crois que ce serait une catastrophe pour le Royaume-Uni et que ce serait un problème pour l'Union européenne. Autrement dit, les effets ne sont absolument pas au même niveau. Les Britanniques ont décidé un suicide pour le prochain siècle. Les Européens continuent. Comme le disait Mme Merkel, il y a bien d'autres problèmes à régler en Union européenne que le Brexit. Donc le Brexit, pour nous, c'est un souci. On aimerait beaucoup avoir un accord, mais ça n'est pas la fin de l'Union européenne. En revanche, ça peut être la fin du Royaume-Uni, oui, tout à fait.
Pierre Grosser, vous partagez.
Alors sur la concomitance, il y a un certain nombre de choses qui ressemblent, c'est-à-dire sur les conséquences sociales quand même de la mondialisation telle qu'elle a fonctionné. Il faut bien voir que dans la fin des années 90, il y a eu quand même un certain nombre de signaux d'alarme venus à l'époque plutôt de la gauche pour dire qu'il y allait avoir des conséquences de cette mondialisation libérale qui creusait très profondément les inégalités. Aujourd'hui, cette contestation, elle est plutôt de droite, mais finalement, le constat est relativement le même. C'est quand même deux des pays où les inégalités sociales ont le plus explosé, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser de côté. De la même façon, il faut aussi s'interroger, puisque là j'ai dit, il faut s'interroger sur ce que nous avons fait avec cette mondialisation libérale, il faut aussi s'interroger sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que la perception de ce qu'est l'Union européenne et les critiques à l'égard de l'Union européenne, on ne peut pas juste dire c'est du populisme, ils n'ont rien compris, etc. Parce que c'est cette attitude arrogante en disant, ben voilà, il y a une race supérieure à Bruxelles qui comprend ce qui est bien pour l'Union européenne et aussi pour elle-même, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'il y a aussi une réaction avec une gouvernance technocratique, opaque, etc. etc. Et il faut au moins poser cette question. C'est pas tombé du ciel comme ça, et c'est pas juste parce qu'il y a des méchants russes ou autres qui ont manipulé les élections. À côté de ça, en Angleterre, il y a quand même quelque chose d'absolument fascinant, c'est une espèce de délire de puissance. Tout à l'heure, on parlait du manque de perception de puissance. Là, je pense qu'un certain nombre de Britanniques se sont dit tout seuls, nous allons rester comme à l'époque impériale, et d'ailleurs, il y a une nostalgie impériale depuis les années 80 au Royaume-Uni, on va redevenir une grande puissance. C'est nous qui allons nous occuper de l'internationalisation de la monnaie chinoise, du renminbi. On va faire des accords de libre-échange avec nos anciennes colonies ou nos anciens dominions. Ils sont allés voir les Indiens, ils sont allés voir les Américains, bien entendu, ils sont allés voir les Australiens en disant, ben voilà, maintenant, en gros, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et ça, ça a été, je crois, une erreur de calcul absolument considérable, c'est-à-dire qu'ils se sont vus beaucoup trop gros par rapport à ce qu'ils sont réellement. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une crise en Angleterre, c'est pas seulement parce qu'ils n'arrivent pas à négocier avec les Européens, c'est que l'alternative, c'est-à-dire de cette puissance par la City et par des traités de libre-échange avec tout un tas de puissances, ça foire complètement.
Alors c'est intéressant, Nicole Nisotto, cette impression et ce sentiment de toute puissance qui fait aussi que finalement, d'une certaine manière, les Anglais sont coupés de la réalité. Je voudrais revenir aussi deux petites secondes, après ça on parlera de la relation avec la Russie, la Chine et le Japon. On stigmatise beaucoup les populismes en Europe et Pierre Grosser, me semble-t-il, le disait en filigrane, il y a tout de même une responsabilité des élites qui est assez forte dans cette relation de cause à effet, Nicole Nisotto.
Oui, alors un mot d'abord sur le Brexit. Moi, je me souviens qu'au début de son mandat, Mme Theresa May, on va faire le Global UK, c'est-à-dire un Royaume-Uni totalement au cœur de la mondialisation. Et en fait, ils s'aperçoivent petit à petit qu'ils vont avoir un Local UK, un Royaume-Uni complètement provincial, coupé du monde, etc. Et que c'est effectivement un traumatisme politique, mais c'est leur problème. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que les Européens doivent faire le maximum pour essayer d'aider les Anglais à trouver un accord, mais on ne peut pas non plus, comment dire, s'approprier le mal anglais d'une certaine façon. Sur la responsabilité des élites et de la mondialisation, oui, tout à fait. Les populistes ne sont pas nés comme autrefois les enfants dans des choux. Ils sont le résultat de plusieurs choses. D'abord du vieillissement de la population européenne, et donc un peuple vieillissant et plus peureux, moins innovant, plus porté à des stratégies plutôt de protection, d'enfermement contre l'étranger, l'autre, le monde, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la mondialisation a cet effet paradoxal dans les pays riches, qu'elle augmente la richesse des riches et qu'elle diminue le niveau de vie des classes moyennes. Et donc, la paupérisation des classes moyennes en Europe et aux États-Unis est inscrite dans la mondialisation. C'est-à-dire, plus la mondialisation va gagner, plus nos classes moyennes vont être fragilisées. Et ça, c'est un terreau formidable pour les mouvements populistes. Et troisièmement, nous avons une politique de la Commission européenne, enfin des élites européennes, mais c'est essentiellement la Commission, extrêmement responsable, c'est-à-dire qui n'a jamais voulu écouter ce que disent les citoyens. Et le meilleur exemple, c'est que la Commission a annoncé il y a 3 mois, sans tenir compte absolument de l'état des opinions, qu'elle était pour l'ouverture de l'adhésion à la Macédoine et à l'Albanie, que ce pays était prêt, on pouvait y aller, c'est quand même tout à fait aberrant. La Commission continue à vouloir multiplier les accords de libre-échange, les grands accords de libre-échange comme celui qu'on a signé avec le Canada, le CETA, avec l'Australie, avec le Japon, avec le Mercosur, la Terre entière, alors qu'il y a une opposition fondamentale aujourd'hui des opinions publiques à ces grands accords de libre-échange qui ne sont pas démocratiquement contrôlés. Je crois que ce n'est pas un désaccord sur le libre-échange, c'est un désaccord sur le fait que ces négociations sont parfaitement opaques. Et on pourrait multiplier des exemples, je ne parle même pas de l'affaire de M. Barroso. Donc la Commission, c'est-à-dire l'élite, le gouvernement de l'Union européenne, est une commission totalement apolitique, totalement coupée du monde. Elle reçoit aujourd'hui le retour de bâton. Je crois qu'il y a, de la part des opinions européennes eurosceptiques, une analyse qui est assez juste, mais de là à tomber dans l'europhobie et la volonté de destruction de l'Europe, là, il y a, je crois, un fossé qui sépare le scepticisme normal vis-à-vis de la façon dont la Commission conduit l'Europe, de la résurgence de mouvements d'extrême droite. Moi, je pense que le populisme est un cache-sexe pour un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire on est aujourd'hui en Europe confronté à la renaissance de l'extrême droite, et je crois qu'il faut vraiment entrer en résistance.
Fossé, fracture, Pierre Grosser, entre les élites et les populations. Alors, les accords du libre-échange, le dernier en date, c'est celui avec le Japon. Ça, c'est un gros dossier. Nicole Niesoto dénonçait le côté opaque des négociations. Un commentaire sur ces accords de libre-échange et on parlera de la relation avec la Russie.
Oui, alors effectivement, quand il y avait une logique uniquement économique, et d'ailleurs, quand on écoute Monsieur Trump dire que finalement, dans les négociations avec l'Union européenne, l'objectif est d'arriver à zéro tarif douanier, zéro tarif non douanier, etc., etc., c'est finalement quelque chose qui ressemble à la grande négociation entre les États-Unis et l'Europe que on avait commencé à mener, qui avait provoqué des levées de boucliers très importantes, comme d'autres négociations hein, sur les investissements dans les années 90, etc., etc. Donc, c'est des négociations où, en gros, vous avez essentiellement des groupes patronaux ou des spécialistes de droit, de cabinets d'affaires qui sont intégrés. Et le gros problème, finalement, de la démocratie dans l'Union européenne, c'est pas le poids du Parlement. C'est le fait qu'on ne sait pas qui décide où et qui est-ce qui est intégré dans la boucle de décision et qui est-ce qui n'est pas intégré. Enfin, on voit bien qui n'est pas intégré, mais on ne sait pas qui est-ce qui est à l'intérieur et qui est-ce qui prend des décisions. Et on sait très bien que les lobbying d'affaires à Bruxelles est tout à fait prospère. Alors sur le cas du Japon, il est un peu différent du cas australien, puisque dedans, il n'y a pas normalement ce qui avait été un des grands problèmes, qui était la question de l'arbitrage entre les entreprises et les États, qui se ferait en dehors finalement des éléments administratifs ou des éléments politiques traditionnels. Je crois que là, on est aussi dans un enjeu différent, qui est de dire en gros que on est avec les Américains dans une situation très grave pour le libre-échange mondial et qu'il y a une espèce de quasi-alliance des pays encore attachés au libre-échange, donc le Canada, le Japon et effectivement sans doute un peu en Amérique latine, mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui le Mercosur que ça ne l'était au début des années 90. Et donc on essaye de sauver un peu les meubles de cette manière-là, mais il n'empêche pas que de toute façon du côté du Japon sur un certain nombre de produits, enfin c'est pas les agriculteurs français vont pas exporter des tonnes et des tonnes de produits au Japon qui a pour tout un tas de raisons historiques comme la France d'ailleurs un attachement à son agriculture très particulier.
Alors, pour avancer, il nous reste peu de temps finalement. On va peut-être parler, si vous le voulez bien, pour poursuivre sur le découplage entre l'Europe et l'Amérique. Finalement, c'est la Russie qui est le premier bénéficiaire de la situation. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Union européenne ?
Alors oui, vous avez raison. On pourrait dire que ce que les Soviétiques puis les Russes ont essayé d'obtenir pendant 60 ans de guerre froide et de post-guerre froide, c'est-à-dire le découplage entre l'Europe et les États-Unis, et qu'ils n'ont jamais réussi à obtenir, ils vont finalement l'avoir grâce non pas à la faiblesse d'un des pays européens, par exemple l'Allemagne, mais à la nouvelle politique du président des États-Unis. Ce serait savoureux si ça n'était tragique. Et donc, on peut dire qu'effectivement la Russie est aujourd'hui un certain bénéficiaire de la crise euro-américaine, mais ce qui est paradoxal quand même, c'est que les Russes ne vont pas bénéficier de cet avantage. Pourquoi ? Parce que les Russes ont choisi d'avoir une attitude, peut-être pas une stratégie, mais en tout cas d'avoir une attitude offensive, agressive, vis-à-vis des pays européens, en particulier vis-à-vis des pays européens qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique. Et donc, on a ce paradoxe d'une Russie de M. Poutine qui est objectivement favorisée par l'évolution des relations transatlantiques et qui pourrait en tirer avantage pour ressortir ses idées d'architecture européenne, de maisons communes, etc., mais en même temps qui est agressive vis-à-vis de la sécurité de l'Europe, qui fait des manœuvres, y compris des gesticulations nucléaires au-dessus des pays de l'OTAN qui sont très inquiétantes, et qui donc n'arrive pas à bénéficier de cet avantage. Et je ne comprends pas, je vous avoue, la stratégie de M. Poutine, qui devrait normalement aujourd'hui adopter un ton plus conciliant pour pouvoir véritablement engranger les bénéfices d'une relation nouvelle avec les Européens. Pour les Européens, de toute façon, ça veut dire que vis-à-vis de la Russie, il faut essayer de penser une relation un peu plus complexe que celle des sanctions. Je crois que les Européens devraient considérer la Russie effectivement peut-être comme un adversaire sur l'Europe à cause de l'affaire ukrainienne, mais comme un partenaire dans le reste du monde, et en particulier au Moyen-Orient, sur la Syrie et sur l'Iran. Sur l'Iran, un partenaire contre la politique américaine. Mais pour avoir une diplomatie aussi complexe, c'est-à-dire partenaire-adversaire, il faudrait que les Européens décident effectivement d'avoir une vraie politique étrangère commune. Et pour l'instant, ils n'y arrivent pas.
Alors, avoir une politique étrangère commune pour les Européens et puis aussi nécessité pour l'Europe de faire entendre une voix plus uniforme sur la scène internationale, avec tout ce qui se passe et tout ce que nous avons évoqué, Pierre Grosser, c'est un cercle compliqué.
Encore plus sur la Russie. C'est là où on a peut-être les divisions les plus importantes, qui sont pas des divisions entre pays, même s'il y a des pays qui, on le sait, demandent depuis longtemps et de façon assez insistante la levée des sanctions, ou en tout cas l'amenuisement des sanctions à l'égard des Russes, mais à l'intérieur même des pays. Et donc, finalement, c'est assez facile pour la Russie, je veux dire au sens large, pas forcément le Kremlin, de jouer sur ces divisions, se jouer sur un certain nombre d'appétits économiques et autres. Et là, on a quand même l'impression d'une certaine inversion des rapports de force, même si, évidemment, quand on regarde statistiquement, que ça soit les dépenses militaires ou le commerce, il n'y a pas photo, l'Union européenne est beaucoup plus puissante en termes statistiques que la Russie, mais on a l'impression que aujourd'hui c'est la Russie qui a beaucoup de cartes en main. Elle a une carte en main absolument remarquable qui est le lien avec la Chine, qui nous rappelle un peu les années 50 sous une forme assez différente, parce qu'à l'époque c'était la Russie qui était forte et la Chine qui était faible, mais là on a des liens qui sont très forts, donc on a moins besoin de l'Europe, ou alors on peut s'appuyer sur la Chine pour se rapprocher de l'Europe. Et puis comme du côté américain, on sait pas quel est le vrai discours, parce que tout à l'heure on parlait de découplage. Pour le moment, à chaque fois, on est revenu, oui, l'article 5, ça joue quand même, etc. Mais c'est des questions qui sont quand même très, très anciennes. C'est-à-dire, encore une fois, on a entendu monsieur Trump parler du Monténégro, mais c'est une question qui est posée depuis très, très longtemps, de savoir si les Américains allaient se suicider solidairement avec l'Europe, s'il y a un mouvement soviétique hier et russe aujourd'hui à l'intérieur de l'Europe. Donc la question du coupage, des coupages est de toute façon une question fondamentale. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles le Gérald de Gaulle a voulu l'arme nucléaire pour la France, ça avait été ça l'explication majeure. Donc, d'un point de vue stratégique, je pense que c'est moins grave, parce que il y a quand même toute une routine otanienne qui fait que Trump ne peut pas faire ce qu'il veut, mais la faiblesse de l'Europe par rapport à la Russie, qui a beaucoup de cartes en main, eh bien, ça c'est quelque chose qui pose problème, et on n'a absolument pas de politique unifiée sur la Russie.
Alors, faiblesse de l'Europe, en guise de conclusion, on peut se reporter sur 2019. 2019, une année importante pour l'Europe, donc on aura bien sûr l'occasion, et je serais ravie de vous avoir à nouveau l'un et l'autre dans l'émission. Une année importante pour l'Europe, avec d'une part le Brexit, nous l'avons évoqué, et puis les élections au Parlement. Nous en reparlerons donc. Merci Nicole Niesoto. Je rappelle que vous étiez avec nous par téléphone. Vous êtes professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et co-auteur avec Pascal Lamy de Où va le monde aux éditions Odile Jacob. Et en studio avec moi, Pierre Grosser, historien, spécialiste de l'histoire des relations internationales, professeur agrégé à Sciences Po, auteur de plusieurs ouvrages également. Et le dernier, L'histoire du monde se fait en Asie, une autre vision du XXe siècle, paru également aux éditions Odile Jacob. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous reparlerons de